Quand Molineux, nommé agent par le tribunal de commerce, vint prendre possession de l'actif de César Birotteau, Constance, aidée par Célestin, vérifia l'inventaire avec lui. Puis la mère et la fille sortirent, à pied, dans une mise simple, et allèrent chez leur oncle Pierrot, sans retourner la tête, après avoir demeuré dans cette maison le tiers de leur vie. Elles cheminèrent en silence vers la rue des Bourdonnais, où elles dînèrent avec César pour la première fois depuis leur séparation. Ce fut un triste dîner. Chacun avait eu le temps de se faire ses réflexions, de mesurer l'étendue de ses obligations et de sonder son courage. Tous trois étaient comme des matelots prêts à lutter avec le mauvais temps, sans se dissimuler le danger. Birotteau reprit courage en apprenant avec quelle sollicitude de grands personnages lui avaient arrangé un sort. Mais il pleura quand il sut ce qu'allait devenir sa fille. Puis il tendit la main à sa femme en voyant le courage avec lequel elle recommençait la vie. L'oncle Pierrot eut pour la dernière fois de sa vie les yeux mouillés à l'aspect du touchant tableau de ces trois êtres unis, confondus dans un embrassement au milieu duquel Birotteau, le plus faible des trois, le plus abattu, leva la main en disant « Espérons !»« Pour économiser, dit l'oncle, tu logeras avec moi, garde ma chambre et partage mon pain. Il y a longtemps que je m'ennuie d'être seule, tu remplaceras ce pauvre enfant que j'ai perdu. D'ici, tu n'auras qu'un pas pour aller rue de l'Oratoire, à ta caisse. » « Dieu de bonté !» s'écria Birotteau. « Au fort de l'orage, une étoile me guide !» En se résignant, le malheureux consomme son malheur. La chute de Birotteau se trouvait dès lors accomplie. Il y donnait son consentement. Il redevenait fort. Après avoir déposé son bilan, un commerçant ne devrait plus s'occuper que de trouver une oasis en France ou à l'étranger, pour y vivre sans se mêler de rien, comme un enfant qu'il est. La loi le déclare mineur et incapable de tout acte légal, civil et civique. Mais il n'en est rien. Avant de reparaître, il attend un sauf-conduit que jamais ni juge-commissaire ni créancier n'ont refusé. Car, s'il était rencontré sans cet exéat, il serait mis en prison, tandis que, muni de cette sauvegarde, il se promène en parlementaire dans le camp ennemi, non par curiosité, mais pour déjouer les mauvaises intentions de la loi relativement aux faillis. L'effet de toute loi qui touche à la fortune privée est de développer prodigieusement les fourberies de l'esprit. La pensée des faillis, comme de tous ceux dont les intérêts sont contrecarrés par une loi quelconque, est de l'annuler à leur égard. La situation de mort civile, où le failli reste comme une chrysalide, dure 3 mois environ, temps exigé par les formalités, avant d'arriver au Congrès où se signe, entre les créanciers et le débiteur, un traité de paix, transaction appelée « concordat ». Ce mot indique assez que la concorde règne, après la tempête soulevée, entre des intérêts violemment contrariés. Sur le vu du bilan, le tribunal de commerce nomme aussitôt un juge-commissaire qui veille aux intérêts de la masse des créanciers inconnus et doit aussi protéger le failli contre les entreprises vexatoires de ses créanciers irrités. Double rôle qui serait magnifique à jouer si les juges-commissaires en avaient le temps. Ce juge-commissaire investit un agent du droit de mettre la main sur les fonds, les valeurs, les marchandises, en vérifiant l'actif porté dans le bilan. Enfin, le greffe indique une convocation de tous les créanciers, laquelle se fait au son de trompe des annonces dans les journaux. Les créanciers, faux ou vrais, sont tenus d'accourir et de se réunir afin de nommer des syndics provisoires, qui remplacent l'agent, se chaussent avec les souliers du failli, deviennent par une fiction de la loi le failli lui-même, et peuvent tout liquider, tout vendre, transiger sur tout, enfin fondre la cloche au profit des créanciers si le failli ne s'y oppose pas. La plupart des faillites parisiennes s'arrêtent au syndic provisoire, et voici pourquoi. La nomination d'un ou plusieurs syndics définitifs est un des actes les plus passionnés auxquels puissent se livrer des créanciers altérés de vengeance, joués, bafoués, turlupinés, attrapés, dindonnés, volés et trompés. Quoiqu'en général les créanciers soient trompés, volés, dindonnés, attrapés, turlupinés, bafoués et joués, il n'existe pas à Paris de passion commerciale qui vive 90 jours. En négoce, les effets de commerce savent seuls se dresser, altérés de paiement, à 3 mois. À 90 jours, tous les créanciers exténués de fatigue par les marches et contre-marches qu'exige une faillite dorment auprès de leurs excellentes petites femmes. Ceci peut aider les étrangers à comprendre combien en France le provisoire est définitif. Sur 1000 syndics provisoires, il n'en est pas 5 qui deviennent définitifs. La raison de cette abjuration des haines soulevée par la faillite va se concevoir. Mais il devient nécessaire d'expliquer aux gens qui n'ont pas le bonheur d'être négociants le drame d'une faillite, afin de faire comprendre comment il constitue à Paris une des plus monstrueuses plaisanteries légales et comment la faillite de César allait être une énorme exception. Ce beau drame commercial a trois actes distincts. L'acte de l'argent, l'acte des syndics, l'acte du concordat. Comme toutes les pièces de théâtre, il offre un double spectacle. Il a sa mise en scène pour le public et ses moyens cachés. Il y a la représentation vue du parterre et la représentation vue des coulisses. Dans les coulisses sont le failli et son agréé, l'avoué des commerçants, les syndics et l'agent, enfin le juge-commissaire. Personne hors Paris ne sait, et personne à Paris n'ignore, qu'un juge au tribunal de commerce est le plus étrange magistrat qu'une société se soit permis de créer. Ce juge peut craindre à tout moment sa justice pour lui-même. Paris a vu le président de son tribunal être forcé de déposer son bilan. Au lieu d'être un vieux négociant retiré des affaires et pour qui cette magistrature serait la récompense d'une vie pure, ce juge est un commerçant surchargé d'énormes entreprises à la tête d'une immense maison. La condition sine qua non de l'élection de ce juge, tenu de juger les avalanches de procès commerciaux qui roulent incessamment dans la capitale, est d'avoir beaucoup de peine à conduire ses propres affaires. Ce tribunal de commerce, au lieu d'avoir été institué comme une utile transition d'où le négociant s'élèverait sans ridicule aux régions de la noblesse, se compose de négociants en exercice qui peuvent souffrir de leur sentence en rencontrant leur partie mécontente comme Birotteau rencontrait Du Tillet. Le juge-commissaire est donc nécessairement un personnage devant lequel il se dit beaucoup de paroles, qui les écoute en pensant à ses affaires et s'en remet de la chose publique au syndic et à l'agréé, sauf quelques cas étranges et bizarres où les vols se présentent avec des circonstances curieuses et lui font dire que les créanciers ou le débiteur sont des gens habiles. Ce personnage, placé dans le drame, comme un buste royal dans une salle d'audience, se voit le matin, entre 5 et 7 heures, à son chantier, s'il est marchand de bois, dans sa boutique, si, comme jadis Birotteau, il est parfumeur, ou le soir après dîner, entre la poire et le fromage, d'ailleurs toujours horriblement pressé. Ainsi, ce personnage est généralement muet. Rendons justice à la loi. La législation faite à la hâte qui régit la matière a lié les mains au juge-commissaire et dans plusieurs circonstances, il consacre des fraudes sans les pouvoir empêcher, comme vous l'allez voir. L'agent, au lieu d'être l'homme des créanciers, peut devenir l'homme du débiteur. Chacun espère pouvoir grossir sa part en se faisant avantager par le failli, auquel on suppose toujours des trésors cachés. L'agent peut s'utiliser des deux côtés, soit en n'incendiant pas les affaires du failli, soit en attrapant quelque chose pour les gens influents. Il ménage donc la chèvre et le chou. Souvent, un agent habile a fait rapporter le jugement en rachetant les créances et en relevant le négociant, qui rebondit alors comme une balle élastique. L'agent se tourne vers le râtelier le mieux garni, soit qu'il faille couvrir les plus forts créanciers et découvrir le débiteur, soit qu'il faille immoler les créanciers à l'avenir du négociant. Ainsi, l'acte de l'agent est l'acte décisif. Cet homme, ainsi que l'agréé, joue la grande utilité dans cette pièce, où, l'un comme l'autre, ils n'acceptent leur rôle que sûr de leurs honoraires. Sur une moyenne de 1000 faillites, l'agent est 950 fois l'homme du failli. À l'époque où cette histoire eut lieu, presque toujours les agréés venaient trouver le juge-commissaire et lui présentaient un agent à nommer, le leur, un homme à qui les affaires du négociant étaient connues et qui saurait concilier les intérêts de la masse et ceux de l'homme honorable tombé dans le malheur. Depuis quelques années, les juges habiles se font indiquer l'agent que l'on désire, afin de ne pas le prendre et tâchent d'en nommer un quasi vertueux. Pendant cet acte, se présentent les créanciers, faux ou vrais, pour désigner les syndics provisoires, qui sont, comme il est dit, définitifs. Dans cette assemblée électorale, ont droit de voter ceux auxquels il est dû 50 sous, comme les créanciers de 50 000 francs. Les voix se comptent et ne se pèsent pas. Cette assemblée, où se trouvent les faux électeurs introduits par le failli, les seuls qui ne manquent jamais à l'élection, propose pour candidats les créanciers parmi lesquels le juge-commissaire, président sans pouvoir, est tenu de choisir les syndics. Ainsi, le juge-commissaire prend presque toujours de la main du failli les syndics qu'il lui convient d'avoir. Autre abus qui rend cette catastrophe un des plus burlesques drames que la justice puisse protéger. L'homme honorable, tombé dans le malheur, maître du terrain, légalise alors le vol qu'il a médité. Généralement, le petit commerce de Paris est pur de tout blâme. Quand un boutiquier arrive au dépôt de son bilan, le pauvre net homme a vendu le châle de sa femme, a engagé son argenterie, a fait flèche de tout bois et a succombé les mains vides, ruiné, sans argent, même pour l'agréer, qui se soucie fort peu de lui. La loi veut que le concordat, qui remet au négociant une partie de sa dette et lui rend ses affaires, soit voté par une certaine majorité de sommes et de personnes. Ce grand œuvre exige une habile diplomatie, dirigée au milieu des intérêts contraires qui se croisent et se heurtent par le failli, par ses syndics et son agréé. La manœuvre habituelle, vulgaire, consiste à offrir, à la portion de créanciers qui fait la majorité voulue par la loi, des primes à payer par le débiteur, en outre des dividendes consentis au concordat. À cette immense fraude, il n'est aucun remède. Les 30 tribunaux de commerce qui se sont succédés les uns aux autres le connaissent pour l'avoir pratiqué. Éclairés par un long usage, ils ont fini dernièrement par se décider à annuler les effets entachés de fraude, et comme les faillis ont intérêt à se plaindre de cette extorsion, les juges espèrent moraliser ainsi la faillite. Mais ils arriveront à la rendre encore plus immorale. Les créanciers inventeront quelques actes encore plus coquins, que les juges flétriront comme juges, et dont ils profiteront comme négociants. Une autre manœuvre extrêmement en usage, à laquelle on doit l'expression de « créanciers sérieux et légitimes », consiste à créer des créanciers, comme Du Tillet avait créé une maison de banque, et d'introduire une certaine quantité de claparons, sous la peau desquels se cache le failli, qui, dès lors, diminue d'autant le dividende des créanciers véritables, et se crée ainsi des ressources pour l'avenir, tout en se ménageant la quantité de voix et de sommes nécessaires pour obtenir son concordat. Les créanciers, gais et illégitimes, sont comme de faux électeurs introduits dans le collège électoral. Que peut faire le créancier sérieux et légitime contre les créanciers gais et illégitimes? S'en débarrasser en les attaquant. Bien. Pour chasser l'intrus, le créancier sérieux et légitime doit abandonner ses affaires, charger un agréé de sa cause, lequel agréé, n'y gagnant presque rien, préfère diriger des faillites et mène peu rondement ce procillon. Pour débusquer le créancier gais, besoin est d'entrer dans le dédale des opérations, de remonter à des époques éloignées, fouiller les livres, obtenir par autorité de justice l'apport de ceux du faux créancier, découvrir l'invraisemblance de la fiction, la démontrer au juge du tribunal, plaider, aller, venir, chauffer beaucoup de cœurs froids, puis faire ce métier de Don Quichotte à l'endroit de chaque créancier illégitime et gai, lequel, s'il vient à être convaincu de gaieté, se retire en saluant les juges et dit « Excusez-moi, vous vous trompez, je suis très sérieux ». Le tout sans préjudice des droits du failli, qui peut mener le Don Quichotte en cour royale. Durant ce temps, les affaires de Don Quichotte vont mal. Il est susceptible de déposer son bilan. Morale, le débiteur nomme ses syndics, vérifie ses créances et arrange son concordat lui-même. D'après ces données, qui ne devine les intrigues, tours de Sganarelle, inventions de Fontin, mensonges de Mascarille et sacs vides de Scapin que développent ces deux systèmes? Il n'existe pas de faillite où il ne s'en engendre assez pour fournir la matière des 14 volumes de Clarisse Harlowe à l'auteur qui voudrait les décrire. Un seul exemple suffira. L'illustre Gobseck, le maître des Palma, des Gigonnet, des Verbrust, des Keller et des Nucingen, s'étant trouvé dans une faillite où il se proposait de rudement mener un négociant qu'il avait surroué, reçut en effet à échoir après le concordat la somme qui, jointe à celle des dividendes, formait l'intégralité de sa créance. Gobseck détermina l'acceptation d'un concordat qui consacrait 75% de remise au failli. Voilà les créanciers joués au profit de Gobseck. Mais le négociant avait signé les effets illicites de sa raison sociale en faillite. Il put appliquer à ses effets la déduction de 75%. Gobseck, le grand Gobseck, reçut à peine 50%. Il saluait toujours son débiteur avec un respect ironique. Toutes les opérations engagées par un failli 10 jours avant sa faillite pouvant être incriminées, quelques hommes prudents ont soin d'entamer certaines affaires avec un certain nombre de créanciers, dont l'intérêt est, comme celui du failli, d'arriver à un prompt concordat. Des créanciers très fins vont trouver des créanciers très niais ou très occupés, leur peignent la faillite en lait et leur achètent leurs créances la moitié de ce qu'elles vaudront à la liquidation, et retrouvent alors leur argent par le dividende de leurs créances, et la moitié, le tiers ou le quart, gagnés sur les créances achetées. La faillite est la fermeture plus ou moins hermétique d'une maison où le pillage a laissé quelques sacs d'argent. Heureux le négociant qui se glisse par la fenêtre, par le toit, par les caves, par un trou, qui prend un sac et grossit sa part. Dans cette déroute où se crie le sauve-qui-peut de la Bérésina, tout est illégal et légal, faux et vrai, honnête et déshonnête. Un homme est admiré s'il se couvre. Se couvrir est s'emparer de quelques valeurs au détriment des autres créanciers. La France a retenti des débats d'une immense faillite éclose dans une ville où siégeait une cour royale et où les magistrats en compte courant avec les faillis s'étaient donné des manteaux en caoutchouc si pesants que le manteau de la justice en fut troué. Force fut, pour cause de suspicion légitime, de déférer le jugement de la faillite dans une autre cour. Il n'y avait ni juge-commissaire, ni agent, ni cour souveraine possible dans l'endroit où la banqueroute éclata. Cet effroyable gâchis commercial est si bien apprécié à Paris qu'à moins d'être intéressé dans la faillite pour une somme capitale, tout négociant, quelque peu affairé qu'il soit, accepte la faillite comme un sinistre sans assureur, passe la perte au compte des profits et pertes et ne commet pas la sottise de dépenser son temps. Il continue à brasser ses affaires. Quant aux petits commerçants, harcelés par ses fins de mois, occupés de suivre le char de sa fortune, un procès effrayant de durée et coûteux à entamer, l'épouvante. Il renonce à voir clair, imite le gros négociant et baisse la tête en réalisant sa perte. Les gros négociants ne déposent plus leur bilan. Ils liquident à l'amiable. Les créanciers donnent quittance en prenant ce qu'on leur offre. On évite alors le déshonneur, les délais judiciaires, les honoraires d'agrès, les dépréciations de marchandises. Chacun croit que la faillite donnerait moins que la liquidation. Il y a plus de liquidation que de faillite à Paris. L'acte des syndics est destiné à prouver que tout syndic est incorruptible, qu'il n'y a jamais entre eux et le failli la moindre collusion. Le parterre, qui a été plus ou moins syndic, sait que tout syndic est un créancier couvert. Il écoute, il croit ce qu'il veut, et arrive à la journée du concordat, après 3 mois employés à vérifier les créances passives et les créances actives. Les syndics provisoires font alors à l'Assemblée un petit rapport, dont voici la formule générale. « Messieurs, il nous était dû à tous en bloc 1 000 000. Nous avons dépecé notre homme comme une frégate sombrée. Les clous, les fers, les bois, les cuivres ont donné 300 000 francs. Nous avons donc 30% de nos créances. Heureux d'avoir trouvé cette somme quand notre débiteur pouvait ne nous laisser que 100 000 francs, nous le déclarons un Aristide, nous lui votons des primes d'encouragement, des couronnes et proposons de lui laisser son actif, en lui accordant 10 ou 12 ans pour nous payer 50% qu'il daigne nous promettre. Voici le concordat, passez au bureau, signez-le. » À ce discours, les heureux négociants se félicitent et s'embrassent. Après l'homologation de ce concordat, le failli redevient négociant comme devant, on lui rend son actif, il recommence ses affaires, sans être privé du droit de faire faillite des dividendes promis. Arrière-petite faillite qui se voit souvent, comme un enfant mis au jour par une mère 9 mois après le mariage de sa fille. Si le concordat ne prend pas, les créanciers nomment alors des syndics définitifs, prennent des mesures exorbitantes en s'associant pour exploiter les biens, le commerce de leurs débiteurs, saisissant tout ce qu'il aura, la succession de son père, de sa mère, de sa tante, etc. Cette rigoureuse mesure s'exécute au moyen d'un contrat d'union. Il y a donc 2 faillites. La faillite du négociant qui veut ressaisir les affaires et la faillite du négociant qui, tombé dans l'eau, se contente d'aller au fond de la rivière. Pillerault connaissait bien cette différence. Il était selon lui, comme selon Ragon, aussi difficile de sortir pur de la première que de sortir riche de la seconde. Après avoir conseillé l'abandon général, il alla s'adresser au plus honnête agréé de la place pour le faire exécuter en liquidant la faillite et remettant les valeurs à la disposition des créanciers. La loi veut que les créanciers donnent, pendant la durée de ce drame, des aliments au failli et à sa famille. Pillerault fit savoir au juge-commissaire qu'il pourvoirait aux besoins de sa nièce et de son neveu. Tout avait été combiné par Du Tillet pour rendre la faillite une agonie constante à son ancien patron. Voici comment. Le temps est si précieux à Paris que généralement dans les faillites de 2 syndics, un seul s'occupe des affaires, l'autre est pour la forme. Il approuve, comme le second notaire dans les actes notariés. Le syndic agissant se repose assez souvent sur l'agréé. Par ce moyen, à Paris, les faillites du premier genre se mènent si rondement que, dans les délais voulus par la loi, tout est bâclé, ficelé, servi, arrangé. En 100 jours, le juge-commissaire peut dire comme le ministre « l'ordre règne à Varsovie ». Du Tillet voulait la mort commerciale du parfumeur. Aussi le nom des syndics nommés par l'influence de Du Tillet fut-il significatif pour Pillerault. Monsieur Bidault, dit Gigonnet, principal créancier, devait ne s'occuper de rien. Molineux, le petit vieillard tracassier qui ne perdait rien, devait s'occuper de tout. Du Tillet avait jeté à ce petit chacal ce noble cadavre commercial à tourmenter en le dévorant. Après l'assemblée où les créanciers nommèrent le syndicat, le petit Molineux rentra chez lui, honoré, dit-il, des suffrages de ses concitoyens, heureux d'avoir Birotteau à régenter comme un enfant d'avoir à tracasser un insecte. Le propriétaire à cheval sur la loi pria Du Tillet de l'aider de ses lumières et il acheta le code du commerce. Heureusement, Joseph Lebas, prévenu par Pillerault, avait tout d'abord obtenu du président de commettre un juge-commissaire sagace et bienveillant. Gobenheim Keller, que Du Tillet avait espéré avoir, se trouva remplacé par M. Camuseau, juge suppléant, le riche marchand de soieries libéral, propriétaire de la maison où demeurait Pillerault, et homme honorable. Une des plus horribles scènes de la vie de César fut sa conférence obligée avec le petit Molineux, cet être qu'il regardait comme si nul et qui, par une action de la loi, était devenu César Birotteau. Il dut aller, accompagné de son oncle, à la cour batave, monter les 6 étages et rentrer dans l'horrible appartement de ce vieillard, son tuteur, son quasi-juge, le représentant de la masse de ses créanciers. « Qu'as-tu ? » dit Pillerault à César en entendant une exclamation. « Ah, mon oncle, vous ne savez pas quel homme est ce Molineux !» Il y a 15 ans que je le vois de temps en temps au café David, où il joue le soir au domino. Aussi t'ai-je accompagné. Monsieur Molineux fut d'une politesse excessive pour Pillerault et d'une dédaigneuse condescendance pour son failli. Le petit vieillard avait médité sa conduite, étudié les nuances de son maintien, préparé ses idées.